je fais partie d'une génération, c'est le cas de beaucoup de gens ici, qui est née après la guerre, d'une famille dans laquelle les questions de la guerre ont beaucoup compté, qui a eu, comme c'est courant, de très bons maîtres, des maîtres très rigoureux, ont enseigné une manière de faire l'histoire qui ne me semble pas dépendre du sens du vent, pour reprendre une expression de l'historien Pierre Milza, qui il y a quelques années, oh oui, il y a même un assez grand nombre d'années, le temps passe, ça doit être en 1996, m'avait dit « Mais écoutez, vous n'avez pas senti le sens du vent ?» Mais je lui avais dit « Mais si, j'ai très bien senti le sens du vent, mais le sens du vent est complètement indépendant de la recherche que je fais. Et moi, je trouve que votre bouquin sur le fascisme italien est bon en 1976. Pourquoi voulez-vous que je dise qu'il est mauvais en 1996 ?» Il se trouve que j'ai eu un grand maître en particulier, auquel je, puisqu'on me pose cette question, auquel je veux rendre hommage, qui est l'historien Pierre Villard, qui a eu la bonté de me laisser faire quelque chose de complètement iconoclaste dès le tout début de ma carrière de recherche, qui n'a même pas été une recherche historique stricto sensu. Je souhaitais, à l'âge de 20 ans, lire Le Capital. Bon, je me suis dit, si je ne suis pas obligée de lire Le Capital, je ne le lirai jamais. Et j'ai demandé à Pierre Villard, qui était un historien moderniste à l'origine, hein, c'est-à-dire d'avant la période contemporaine, je lui ai demandé s'il m'autorisait à travailler sur la pensée économique de Marx. Il m'a dit oui, mais si vous faites quelque chose sur Marx, il faut aussi voir l'économie bourgeoise. Donc il m'avait proposé un sujet de mémoire qui s'appelle « La notion de profit chez Marx, Menger, Marshall et Schumpeter ». Alors, je me rappelle plus très bien ce que racontent les marginalistes, mais ce que raconte Marx dans Le Capital m'a quand même beaucoup frappé. Je le dis parce que je veux qu'on comprenne que les choses rares, c'est pas forcément des choses complètement loufoques. On est des originaux quelquefois dans une période dans laquelle on est loufoque ou incongru, hein, parce que je suis une historienne quand même qui a été complètement loufoque dans la période, dans les dernières décennies, qui sont les décennies de sa recherche, enfin la recherche continue. Et donc, je pense que la chance d'avoir pu lire Marx, ça a été vraiment une grande chance, et qui m'a rendu complètement imperméable à la mode. D'autant que, comme j'estimais énormément Villard, comme j'avais commencé ma thèse d'État avec lui, puisque quand j'ai passé la grecque, je lui ai demandé, je suis tout de suite allé le voir pour aller commencer une thèse d'État, et il m'a proposé un sujet qui m'a plu. Et entre Marx et les archives, effectivement, je n'ai pas senti le sens du vent et j'ai été complètement à contre-courant, tout simplement, mais ceux de ma génération doivent le savoir, parce que j'ai continué à faire de l'histoire comme on faisait de l'histoire il y a 40 ans, il y a 30 ans, c'est-à-dire quand un marxiste et un anti-marxiste pouvaient à peu près s'entendre sur ce que veut dire profit, plus-value, rapport entre salaire et profit, etc. Et c'est ça qui, dans les 30 et surtout les 20 dernières années, finalement a complètement disparu du champ, qui a créé une atmosphère. Je le dis parce que je n'ai, moi, vraiment, il faut le savoir, je n'ai absolument aucune amertume. Je suis émérite puisque j'ai pris ma retraite de l'enseignement à la dernière rentrée. Je n'ai aucune amertume des je dirais même, j'ai même un certain contentement des ennuis que ça m'a valu, non pas parce que j'ai cherché les ennuis, hein, mais parce que voilà, ça a un coût dans une période où l'histoire n'est pas indépendante ou est beaucoup moins indépendante même que dans une période dans une autre période. Je suis finalement très contente d'avoir été en quelque sorte bétonné par des bons maîtres, par le souci de la recherche seule. Je crois de toute façon que pour faire de la recherche indépendante, il ne faut jamais rechercher de carrière. On dira, c'est délicat, oui, bon, c'est vrai. Mais finalement, on fait de l'histoire pour que ça dure. On fait de l'histoire pour que ça dure comme ça a duré, par exemple, pour la thèse de Lefebvre, qui, si je ne m'abuse, a été publiée en 1924 sur les paysans du Nord sous la Révolution. Les petits fours qu'il a mangés n'ont aucune importance. En revanche, le travail qu'il a fait, oui, il tient le coup aujourd'hui. Or, l'histoire, c'est une discipline qui demande à la fois, bien entendu, beaucoup de temps. Il faut le dire, énormément de temps. Quand je fais un bouquin, ça prend des années. En plus, ça, évidemment, c'est les années antérieures, en plus des dernières années de la recherche. Donc, c'est très long. Ça prend du temps et évidemment c'est pas très glorieux, ça permet pas de passer à la télé, sur les plateaux divers, etc. Mais finalement, quand on fait de l'histoire correctement, on a une utilité sociale même si elle ne se voit pas tout de suite, parce que comprendre l'histoire, même si ça ne permet pas exactement de savoir ce qui va se passer, ça permet d'interpréter la réalité de telle sorte que on ne peut pas vous tromper sur tout. Les archives, ça montre dans quel type de société. Moi, je travaille sur des archives qui sont celles de sociétés de classe dans lesquelles il y a des privilégiés, il y a des pas privilégiés, il y a des dominants, il y a des dominés. Ce même discours qui a disparu depuis 20 ans. Hein? Et je me suis aperçue depuis plus de 40 ans, puisque j'ai commencé ma thèse d'état en 1970, et que je dirais que j'ai plutôt fait encore plus de recherches dans les décennies qui ont suivi que dans les premières. Hein? Et puis maintenant, comme je suis émérite, évidemment, je ne fais pratiquement que ça. Et ce travail de recherche, ça permet d'emblée de se rendre compte que dans une société de classe, ceux qui dominent tout ne peuvent pas dire la vérité à ceux qui ne dominent pas, à ceux qui sont dominés. Parce que s'ils leur disaient la vérité, ils ne supporteraient pas. Ce serait même insupportable. Ce que j'explique, par exemple, dans les deux épilogues différents, parce que je ne prends pas quand même du vieux pour faire du neuf, dans les deux épilogues du choix de la défaite et de Dominique à Vichy, en particulier pour rendre compte d'une remarque de Marc Bloch qui n'a pas été, dont la prédiction n'a pas été réalisée. Marc Bloch, en 1944, dans un article, en avril 1944, dans un article qui est apparu dans la presse clandestine, avait fait l'analyse que les Français sauraient bientôt pourquoi ils avaient été trahis, pourquoi leurs alliances avaient été sabordées, pourquoi la France avait subi une défaite ignominieuse, alors que quand même elle a tenu longtemps. Enfin bref, on saurait bientôt, avait-il dit. Eh bien non, on l'a pas su. Et pourtant on aurait dû le savoir, parce que nos parents, nos grands-parents savaient des choses qu'aujourd'hui la jeune génération ne sait pas, que les générations intermédiaires ont parfois oublié, que seuls les plus vieux se remémorent un peu. Enfin évidemment, les archives nous donnent quelque chose de plus. Et pourquoi on n'a pas su? Mais parce que on ne pouvait pas, il n'était pas possible que l'État issu de la guerre dise la vérité à la population française. Parce que si la population française avait su que les mêmes qui l'avaient conduite aux souffrances de la crise précédant la Première Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de la crise, de la rationalisation, puis de la crise, de l'entre-deux-guerres, puis de la guerre. Si ces populations avaient su que ceux qui avaient dirigé les choses dans ces conjonctures semblables, étaient toujours à la tête des affaires, alors qu'on leur jurait que tout avait changé. En quelque sorte qu'on se trouvait dans la situation du guépard, où Tancrède dit au comte Salima, qui lui n'y comprend rien, il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, les archives, ça permet de comprendre comment, pourquoi, rien ne change, mais la population, on lui dit que ça change. Ou au contraire, d'ailleurs, quand on étudie la révolution, mais moi je n'étudie pas les révolutions, ou au contraire, pourquoi tout change. Et bien, si vous voulez, ça, tout le monde a des motivations diverses dans la vie. Voilà, moi je me suis dit que je faisais de la recherche parce que j'aimais la recherche, que le reste finalement je m'en fichais, ce qui donne évidemment à l'histoire une certaine indépendance. J'ai eu la chance de rester indépendante dans une période où l'historiographie devenait très dépendante, beaucoup plus dépendante qu'on aurait pu le croire, puisque nous avions la chance, nous en France, de bénéficier du statut de la fonction publique qui finalement nous a donné de 1946 presque à aujourd'hui une très grande indépendance intellectuelle théorique. Très grande, hein, que ce que je dis toujours à mes collègues, on ne peut pas normalement nous empêcher de travailler sur telle question, sauf éventuellement évidemment en nous fermant les archives. Bon, la conjoncture n'était pas bonne, était même très mauvaise. Mais voilà, dans la vie, on a plus ou moins de chance. Moi, j'ai eu la chance à un moment, je dois vous dire, heureusement que je l'ai eu, parce que sinon, vous me connaîtriez sans doute pas mon nom. J'ai eu la chance de tomber à un moment sur un éditeur qui avait envie de changer un petit peu les choses, qui a vu que mes ouvrages se vendaient, même si, évidemment, ce n'était pas les tirages monstrueux, mais que... Après tout, s'il y avait un courant critique, on pouvait peut-être voir s'y rapporter un peu, et que dans ces conditions, voilà, j'avais la liberté, même si j'étais interdite de plateau, même si j'étais interdite de revue, même si j'étais interdite d'à peu près tout, j'avais la possibilité d'aller dans les archives, et puis de dire ce que j'y trouvais, et puis d'être publié, et puis d'être un peu lu quand même. Et une autre chance est venue, on est tous très conscients de l'importance qu'elle a, que ces cinq, six dernières années, on a bénéficié de petits canaux de diffusion un petit peu plus grands dans le désert où nous sommes que les canaux habituels, puisque finalement Internet a permis de faire circuler un tout petit peu d'esprit critique. Donc dans une période où l'esprit critique était interdit, où les rapports de classe étaient tabous, où l'histoire économique et sociale s'est effondrée, où l'histoire économique est devenue la serve des forces qui nous gouvernent, qui nous dirigent, si on est méchant, on n'est pas tellement excessif, on dirait que l'histoire économique s'est prostituée au grand capital, et je dis bien sans excès, c'est prostitué au grand capital, et quand je parle de prostitution, je parle de prostitution comme toute prostitution tarifée. Eh bien, finalement, ce petit courant de circulation électronique, ma foi, ça a aidé. Et puis, ce qui aide, c'est la conjoncture. Parce que, comme je l'ai dit des décennies à mes étudiants qui, il y a des décennies, ne devaient pas me croire, mais les dernières années, c'est sûr, me croyaient, bien sûr, le balancier change, la conjoncture fait changer le balancier. Et quand on arrive à une période de crise systémique comme celle dans laquelle on arrive, l'idéologie vacille, même si, comme le montre la conjoncture actuelle, avec le tapage de la guerre qui nous ressort la même sauce, que depuis 20 ans, sans parler des crises antérieures, on a droit à tout, le bouclier humain, enfin bref, c'est pas la peine. Je sais pas si vous avez vu l'autre jour Michel Collomb à la télévision, qui était vraiment absolument admirable. Vous n'avez qu'à lire Poker Mentor, vous pouvez barrer Libye, et vous avez les ingrédients de la chose actuelle. Mais cependant, on sent par les temps qui courent que cette pensée qui nous écrase, ce qui nous donne envie d'éteindre la radio, la télé, ce qui nous donne la volonté parfois de les éteindre, franchement, c'est précisément quelque chose qui monte dans la conjoncture de crise et qui va permettre, comme je l'ai dit sans arrêt à mes étudiants ces dernières années, que très certainement la génération d'historiens qui va venir va au fond se retrouver dans une conjoncture qui a beaucoup servi l'historiographie française, qui a été une grande historiographie. C'est-à-dire cette conjoncture tout de même de relative et même à certains égards d'assez grande liberté qui a suivi en France, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait qu'un certain nombre d'intellectuels d'origine bourgeoise, parce qu'ils n'étaient en général pas d'origine prolétarienne, il était rare qu'ils le fussent, se sont trouvés dans une situation d'indépendance à l'égard de leur classe d'origine et ont pu, bénéficiant du statut de la fonction publique, faire preuve d'un certain esprit critique et préserver des traditions qui avaient été quand même les traditions de l'esprit critique historique français. Voilà. Autrement dit, je termine ma carrière d'historienne universitaire, enseignante, sur la perspective d'une période bien plus facile, sachant évidemment, on partage sans doute tous cette conviction que les années à venir risquent de n'être pas commodes. Bon, voilà. Et j'ai dit pendant des décennies à mes étudiants, je l'ai dit devant des tas d'auditoires, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je fais des conférences par-ci, par-là, et des conférences qui donnent chaud au cœur, parce que c'est vrai que je vois maintenant très souvent beaucoup plus de têtes jeunes que je n'ai vues pendant quelques temps. Quand je dis à mes étudiants, que je dis à ces auditoires, que je suis persuadée que la conjoncture à venir va faire renaître cette tradition historiographique qui a fait de la France un grand pays d'historiens parfois pas tout à fait indépendants, mais indépendants quand même, enfin conservant une certaine indépendance de pensée. Ce qui fait que je passe pour, comme disent les bien-pensants, une historienne très contestée par eux, ce qui me flatte. Dans un article de Arrêt sur image, sur un gros dossier dont vous avez sans doute entendu parler, il a été question d'une campagne de réhabilitation de Louis Renault, qui a l'air bien sympathique comme ça. Les petits-enfants qui sont contrariés que leur papy, qui n'ont jamais connu, est un nom qui provoque le mépris, le dégoût, le rejet, tout ça, c'est bien émouvant, tout ça. Et donc, à ce propos, il y a un journaliste bien sympathique d'Arrêt sur image qui est allé interviewer les partis en cause, et en particulier un historien du Monde, le journal de référence, qui avait fait un dossier que je considère comme une sorte de honte, parce que à ce niveau de conformisme et de recherche et de rejet du débat, c'est vraiment la honte pour un journal qui se dit de référence. Et ce malheureux Thomas Vidor, interrogé par le journaliste, n'a eu que deux choses à dire. Nous n'avons pas voulu réhabiliter Renault, nous sommes inscrits dans le cadre d'une décision de justice, c'est intéressant pour les historiens. Deuxièmement, Annie Lacroix est une historienne très contestée. Je me félicite d'avoir été très contestée, je me félicite de l'être encore, je me félicite que Courtois m'invective, puisqu'il y a le lien de Courtois, si vous avez l'article, cliquez donc, pour rigoler un coup. Et je me dis que faire de l'histoire en ayant le sentiment de faire de l'histoire scientifique, vraiment scientifique, avec les instruments qu'on m'a donnés, que je n'ai jamais abandonnés. Et en plus, une histoire qui sert à réfléchir, qui est quand même utile pour aujourd'hui, parce que on ne peut rien comprendre sans l'histoire. Mais pas l'histoire qu'on nous raconte. L'histoire comme elle est. Et à propos de cette histoire comme elle est, et pour répondre sur un choix particulier, d'abord, pour répondre sur un choix général, on fait de l'histoire comme on est ou comme on choisit de faire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut le savoir, il n'y a pas de terrain protégé en histoire. Moi, c'est pas parce que je suis une pétroleuse qui va chercher des bombes, c'est parce que n'importe qui décide de travailler sur n'importe quoi, quand il veut se donner les moyens de travailler sérieusement, il va trouver des bombes, c'est impossible autrement. Et s'il y a une bombe qui m'a tracassée pratiquement depuis que j'ai l'âge de la parole, et certainement, enfin pas certainement, assurément par tradition familiale, c'est celle qui consiste à comprendre comment un pays qui avait tenu 4 ans dans les conditions qu'on sait, avait pu se faire battre d'une manière aussi rapide et aussi ignominieuse, encore ignorais-je, il y a même encore moins de 10 ans, que la France n'avait même pas été vaincue en un mois et demi, mais en quelques jours. Et je le savais ça, parce que on savait beaucoup de choses déjà, puis que je faisais de l'histoire depuis que j'étais prof du secondaire, hein, puisque j'ai été prof du secondaire 13 ans. Et je me heurtais à des questions de mes élèves à qui j'expliquais qu'on savait tout, mais voilà, qu'on a une politique d'apaisement, etc. Donc, au fond, en faisant le choix de la défaite, Dominique Avichy et les ouvrages qui vont suivre, je suis au cœur de ce qui a inspiré toute ma démarche d'historienne, c'est-à-dire comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, pour répondre à la question « comment est-ce que c'est possible ?», on ne peut pas faire de l'histoire comme on nous oblige à faire de l'histoire aujourd'hui. Et comme vous constatez par les manuels de vos enfants ou de vos petits-enfants qu'on fait l'histoire, je viens de me faire envoyer par la société Ellipse, ce qu'elle fait couramment à des tas d'universitaires, une liste de programmes sollicitant les universitaires de travailler sur ceci ou cela, et j'ai eu les nouveaux programmes. Eh bien, les nouveaux programmes, ils sont la destruction de la connaissance historique, la destruction, et ils contribuent à montrer à quel point détruire l'histoire, c'est au fond détruire une partie très importante des capacités d'analyse, des capacités de critique des citoyens. Voilà, j'ai l'intention, je bénéficie de la santé nécessaire, de continuer comme ça, et j'ai la profonde satisfaction ou la profonde conviction que on sera bientôt bien plus nombreux qu'on a été ces dernières décennies. Voilà, et je le dis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est incontestable. Et particulièrement ces dernières années, c'est le contact avec les lecteurs, c'est-à-dire avec les gens qui me disaient, qui m'envoyaient des choses très très différentes pour me parler de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils avaient vu dans leur famille, de ce que représentait pour eux une histoire indépendante. Voilà, tout ça pour dire que finalement, pour faire de l'histoire, de la bonne histoire, parce que je me flatte d'en faire de la bonne en plus. Ils m'insultent ou ils m'invectivent, mais alors ça me laisse totalement froide. Pour faire de la bonne histoire, ils vont aller en bonne conjoncture, mais finalement on peut même s'en tirer dans une mauvaise, et je me réjouis beaucoup de l'idée que, historiquement, on va entrer bientôt dans une autre période, voilà, qui fera que on sera nombreux. Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours détesté. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi le statut de la fonction publique. Hein. On a tous des motivations. Enfin, que j'ai choisi d'être tranquille sur le plan de l'indépendance de la pensée. Il y a une chose que j'ai toujours détestée. C'est l'intimidation, le terrorisme intellectuel. Ça, alors, ça répond en partie à la première question. Je pense que c'est une de mes motivations les plus importantes. Comment nous avons vécu ces 30 dernières années, particulièrement les 20 dernières, dans une période de terrorisme et d'intimidation permanent, ça m'a donné des ailes. Et j'ai fait évidemment, comme doit faire, je pense, un historien qui se respecte, c'est-à-dire que j'ai travaillé en fonction des sources. Je disais toujours à mes étudiants, quand ils venaient me proposer un sujet, car je n'ai jamais utilisé mes étudiants pour me faire des travaux, hein, je dois vous le dire. Ça fait une différence avec d'autres. Moi, j'ai considéré qu'on faisait de l'histoire parce qu'on avait envie, personne n'avait le droit d'utiliser, et sûrement pas de la manière dont ça se fait trop souvent à l'université, des travaux de petite main. Et donc, j'ai décidé, parce que la période était à l'intimidation, de travailler sur certaines questions. En particulier, comme je suis toujours tombée mal, mais tout le monde est tombé mal ces dernières décennies, c'est pour ça qu'il y a tant d'étudiants qui sont allés nous faire de l'histoire du genre ou de l'histoire de la culture. Alors on pourrait faire une histoire du genre qui soit autrement, mais bon, je ne pense pas que ce soit une période, ça ait marqué un grand progrès de l'autonomie ou de l'indépendance intellectuelle que l'histoire de la culture telle qu'elle a pu être conçue ou l'histoire du genre ces dernières décennies. Il y avait une grande, si vous voulez, il y a un moment où ce n'était pas du tout simplement une réaction. J'étais, comme beaucoup de ma génération, très marqué par la Deuxième Guerre mondiale que je n'avais pas connue et très intéressé par tout ce qui concernait la Deuxième Guerre mondiale et notamment la collaboration. Et voilà qu'on interdisait dans les années, à partir du début des années 1990, de dire qu'il y avait eu collaboration. Moi, vous savez, je suis un être très simple. J'aime bien qu'on soit d'accord sur les concepts, pas qu'on soit d'accord sur les choses, hein, qu'on soit d'accord sur le sens des mots. Mais on était encore d'accord dans les années 1980 sur ce que c'était qu'une collaboration. Puis on n'était plus du tout d'accord dans les années 1990. Figurez-vous qu'il paraît que les patrons n'avaient pas collaboré. Alors moi, vous savez, je m'en vais regarder mes fonds. Qu'est-ce qu'ils disent en 40 ? Ah, mais me disaient les collègues, vous n'avez rien compris. Les contemporains ne maîtrisent pas leur concept. Ah bon ? C'est pourquoi, dit un d'entre eux, Anne Lacroix pratique une taxinomie d'époque. Alors je vous traduis, moi-même je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire un vocabulaire, alors d'époque, oui on comprend, tout le monde pense à du Fillon, entièrement d'époque, mais d'époque, vous voyez, daté, ringard, on dirait, si on était un peu familier. Ah, alors j'ai travaillé sur la collaboration économique. D'ailleurs, vous savez pourquoi j'ai travaillé sur la collaboration économique ? Parce que ils m'ont censuré. J'avais fait un article gigantesque, énorme, il faisait plus qu'un que sais-je, sur la collaboration, dans le cadre duquel d'ailleurs j'avais découvert que UGIR fabriquait du cyclone B, on voulait une idée. Bon. Puis on l'avait censuré. Alors qu'on me l'avait d'abord accepté, on me l'avait censuré. Oh ben ça m'avait pas plu du tout. Il a fini par paraître, grâce d'ailleurs à l'humanité, ou juste à la même période, parce que Gilles Smadja a fait un article qui m'a rendu, il faut bien dire, grand service, bien qu'il ait été purement désintéressé. Je me suis fait taper sur les doigts par mes collègues, parce que j'avais travaillé sur le concept de collaboration, j'étais très contesté, j'étais très engagé, comme m'avait dit un jour un collègue très engagé dans la défense de la grande bourgeoisie. Vous êtes très engagé, je lui ai dit vous aussi mon cher collègue, mais on n'est pas engagé chez les mêmes. Et donc, je m'étais fait dire que c'était exagéré, tout ça. Et puis, en travaillant sur la collaboration, et en ayant... Donc ça, c'est dans les années 90. Hein, j'avais quitté l'enseignement secondaire depuis 5 ou 10 ans, puisque j'ai été prof dans le secondaire de 72 à 85, et donc après prof dans le supérieur. Et donc, j'avais utilisé les archives qui étaient disponibles, c'est-à-dire que j'avais utilisé les archives de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, je m'étais aperçu que la collaboration avait existé, mais si vous voulez, par rapport à ce que mes collègues avaient raconté, je veux dire, ils avaient raconté n'importe quoi. Hein. Alors bon, c'était tout la faute de Laval, c'était tout la faute d'un tel, etc. Mais les patrons, ils n'ont pas collaboré, ils ont été forcés par Vichy, et puis ils aimaient bien leurs entreprises, ils ne faisaient pas du tout de politique. Écoutez, moi je regardais les fonds, je ne trouvais que l'inverse. Hein. Bon, quand j'ai trouvé deux cas, je ne dirais pas de non-collaboration, mais d'un peu plus de correction que le reste, inutile de vous dire que je leur ai réservé des flots de papier noirci, que d'ailleurs les véritables circonstances ne méritaient pas, mais enfin pour montrer quand même que voilà, il y avait deux cas qui au moins pouvaient être partiellement reconnus comme sur un point. N'ayant pas sacrifié au sens de la collaboration. En travaillant sur la collaboration, c'est-à-dire sur cette fameuse Deuxième Guerre mondiale qui établissait le consensus, finalement, enfin pas longtemps, hein, qui avait établi un certain consensus après que Paxton, quand même, dans sa France de Vichy, eut mis un peu le pied dans la fourmilière, parce que aujourd'hui Paxton est devenu un auteur de naphtaline, ils adorent tous Paxton, etc. Mais quand le bouquin de Paxton, La France de Vichy, a été publié, en 73 ou 74, on ne peut pas dire que le consensus était établi. Bon, depuis, Paxton est devenu un consensuel, mais à l'époque, il ne l'était pas. Et donc, on avait eu une liberté d'à peu près 10 ans pour travailler sur la collaboration, mais pratiquement sans archives. Vous savez pourquoi sans archives ? Paxton n'avait pas pu travailler en France, puisque La France de Vichy, c'est un bouquin qui a été fait exclusivement sur la base d'archives allemandes, qu'il est allé lire aux États-Unis, parce que c'était les archives saisies par les Américains, emporté aux États-Unis, d'archives françaises que nenni. Moi, j'ai eu de la veine, d'ailleurs, quand j'ai fait ma thèse d'état et surtout au-delà. César, directeur des archives, ancien de la préfectorale et du ministère de l'Intérieur, mais il m'avait trouvé, j'avais très bon genre, j'avais un bon cursus, tout ça, j'avais un air innocent. Bon, j'ai obtenu toutes les archives que je voulais. J'avais un sujet dont j'avais pas tout dit, voilà. Et j'avais eu beaucoup d'archives, et en découvrant les archives, ça dure qu'un temps, ça, hein, faire l'innocente. Après, quand vous sortez des bouquins, j'ai plus eu l'air innocent du tout. Mais bon, au début, ça m'a servi. Et donc, j'envoyais des dossiers. Moi, on a commencé à m'ouvrir des dossiers de l'après-guerre, puis de la guerre. Et puis je me suis rendu compte que c'était encore bien pire que ce que Paxton avait dit. De toute façon, Paxton n'avait pratiquement pas parlé de la collaboration économique, que ça n'avait rien à voir avec ce que racontaient mes collègues sur la seule responsabilité de Laval ou sur l'origine politique des décisions de collaboration prises, etc. Et puis, en travaillant sur la collaboration, figurez-vous que j'avais découvert une horreur. J'avais découvert, sur la base de dossiers solidement établis, notamment par les Allemands, à partir de 1941, c'est-à-dire à partir de l'explosion d'un scandale très vite refermé, très vite étouffé, j'avais découvert que ces messieurs ne s'étaient pas retrouvés à Vichy par hasard. Comme avait dit mon collègue Azéma, dans une émission de 2000 ans d'histoire, émission à laquelle je n'ai jamais eu accès, que je ne risque pas d'ailleurs de fréquenter vu le successeur du précédent. Donc, dans une émission, Azéma avait dit, ils avaient perdu leur repère. Ils se sont retrouvés. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi la population est assez innocente pour penser qu'ils ont tous trouvé leur repère, mais que la boussole les amenait à Vichy. Bon. Mais, bon. Et j'ai donc découvert le scandale de la synarchie. Ah. Et découvrant ça, je me suis aperçu que mes collègues avaient bétonné tous les côtés. Ah non, hein, on n'en parlera pas. Non, non, ça n'existe pas, mais non, il n'y a jamais un groupe d'hommes qui a prévu d'écrabouiller la République, parce que la République était un peu gênante et même très gênante, de mettre une équipe au pouvoir permettrait de régler les problèmes bien mieux, bien plus rapidement. Bon, évidemment, il y avait un petit, il y a une petite conséquence à ça, c'est que en France, ça ne pouvait peut-être pas se faire de manière de façon intérieure, donc il était nécessaire d'avoir une alliance préalable avec une puissance étrangère qui elle-même avait fait les choses chez elle. Ah, vous pensez, je ne rencontrais qu'opposition, non pas opposition à moi, hein, opposition à la seule recherche du thème commun. Un groupe de gens qui auraient préparé la défaite qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Il n'y a que les communistes et les fascistes qui l'ont dit. Ben, s'il n'y a que les communistes et les fascistes qui l'ont dit, alors certainement c'est une affaire totalement interdite. Évidemment, ça m'a alléché beaucoup. Personne n'avait jamais rien écrit sur les années 1930. Enfin, il y a des tas de gens qui avaient écrit sur les années 1930, mais pas sur ça. Pour une simple raison. Que vous éclaire d'ailleurs le très mauvais livre de Paxton sur les dorgiristes, c'est que les fonds intérieurs n'étaient pas ouverts. Il faut que vous le sachiez, les fonds de la Deuxième Guerre mondiale ont été ouverts, totalement ouverts. Moi, j'avais terminé ma recherche sur, qui a abouti à industriels et banquiers. Puisqu'il y a eu une circulaire, ou un arrêté, ou je ne sais quoi, ou un décret Jospin, si je ne m'abuse, en 1997, qui a libéré les fonds 39-45. Mais il y a des fonds qui étaient bien plus embêtants que 39-45. C'était les fonds d'avant 39. Eh bien, ceux-là, ils ont été libérés au bout de 60 ans. En toute violation de la loi de 1979, qui avait été d'ailleurs régulièrement allègrement violée, la loi de la prescription trentenaire. Trentenaire, mais 60 ans pour les documents qui engagent la sécurité de l'État, etc. N'importe quoi engage la sécurité de l'État, n'est-ce pas? Et puis, sans parler des familles, de l'honneur des familles. Écoutez, l'honneur des familles, ma foi, si on a un individu qui le viole, c'est pas de ma faute, c'est quand c'est d'une personne publique. Et il se trouve que quand j'ai fini industriel et banquier, eh bien, les fonds sont vrais. Eh bien, je suis allée les voir. Et alors, j'ai passé 5 ans dans les fonds. Dont, alors je ne vous dis pas, j'avais déjà passé bien des années dans les fonds des années 30, dont 4 ans dans les fonds, on va dire, de police et administratif. C'est bien simple. Je rentrais chez moi en disant, mais nom d'un chien, nom d'un chien, comment est-ce que je vais faire un ouvrage distingué et universitaire? Parce que il me traite de pétroleuse, mais finalement, quand on me lit, je suis assez, vous savez, je fais des livres assez distingués, très universitaires. Bon, il n'y a rien à dire, hein, de ce point de vue. Ils disent le contraire, mais c'est parce qu'ils ne me lisent pas. Bon. Et donc, je suis allée regarder les fonds en me disant, comment je vais faire un livre universitaire avec ces horreurs? Alors, j'avais déjà rencontré des horreurs. Je vous dis pas les horreurs que j'ai rencontrées, hein. D'ailleurs, je le signale à ceux qui sont pas historiens, on peut être bétonné par des décennies, on a toujours des chocs. Et par exemple, quand j'ai découvert, entre l'été et l'automne 1962, la lettre d'un des directeurs de comité d'organisation de la confection à Bichelonne, devenu secrétaire d'État ministre de la production industrielle, et lui expliquant comment il fallait faire un pool des machines à coudre juive de ceux qui venaient de partir dans le cadre de l'opération Vent printanier. D'abord, il a fallu que je relise, c'était en français. Hein. Et quand même, j'ai eu un choc. Vous imaginez, vous, qu'on pique les machines à coudre des gens qui vont revenir? Voyez, le genre de... J'ai des gens très bien, comme dit Alexandre Jardin, très très vrai, très très bien. Hein, puis il insistait sur son pool des machines, évidemment, pour faire les uniformes nécessaires pour l'armée allemande, etc., parce qu'on ne travaillait que pour l'Allemagne. Bon, donc des documents choquants, j'en ai trouvé toute ma vie. Mais des documents choquants, comme ceux des années 30, non. Je ne sais pas même si j'en retrouverai... Si on en retrouvera des équivalents, c'est vrai que... Bon, pendant la guerre... Il y en a plein d'aussi choquants, mais si vous voulez des documents qui sont tellement en contradiction avec tout ce qu'on nous raconte, des documents qui vous montrent que ces gens, plus égaux que d'autres, dictent la vie des autres, décident à un moment qu'ils ont besoin d'écraser les salaires encore plus qu'avant, que pour écraser les salaires, il faut la poigne. Et que, il y a des bons modèles de poigne. Ah, il y a l'italien. Ah, mais l'allemand, il est encore mieux. Puis plus efficace. Et ça amène, évidemment, ces gens à se dire que il faudrait trouver une solution où la population française, pour que les salaires baissent le plus possible, ou les revenus autres que ceux de la fraction très étroite du capital qu'on fait semblant de découvrir aujourd'hui. Les actionnaires, on nous bassine avec les actionnaires. Ah bon ? Parce qu'avant, les actionnaires, on leur donnait rien aux actionnaires. Les détenteurs du capital, ils ont découvert les fruits du capital dans les deux dernières décennies, peut-être. Eh bien, je me suis rendu compte, au fil des découvertes, au fil de 4 ans de découvertes plus horribles les unes que les autres, que ces gens avaient été en mesure d'établir un programme politique qui leur permit de travailler sans aucun retard, sans aucune gêne aux décisions qu'ils avaient à prendre et que les structures républicaines entravaient un peu, que ces gens ont été en mesure d'influer sur l'ensemble de la société, que ça ne datait pas d'ailleurs de l'époque où je les étudiais pour cette décennie 30, ni de la décennie d'avant, ni même des décennies antérieures, grosso modo que ça datait du moment où ils s'étaient installés au pouvoir, hein, c'est-à-dire entre la Révolution et la période napoléonienne, et je le dis parce que le pouvoir de la Banque de France, de ce que j'appelle l'instrument de la dictature en France, puisque j'ai expliqué que dans les années 30, la dictature était exercée en France, dans la France républicaine et parlementaire, par la Banque de France, et qu'en plus je l'ai démontré, sur la base des archives de la Banque de France. Et donc je me suis rendu compte que ces gens avaient d'abord mis au point, d'abord contrôlé toute la société. Oh, comme disait la pie qui chante, Bacharan l'autre jour. C'est plan B qu'il appelait la pie qui chante, j'aimais beaucoup parce que ça correspondait assez au son de la voix. Comme disait Madame Bacharan l'autre jour à Colomb, oh, votre pensée d'une simplicité biblique. Ben oui, c'est d'une simplicité biblique, justement. La simplicité biblique, c'est que ces gens contrôlent, comme dit Marc Bloch, l'armée, la presse, les hommes politiques, je ne parle pas des finances évidemment, les finances c'est eux, les hommes de main, dont certains d'ailleurs sont d'extraction très élevée. Hommes de main, hommes de sang, oui, oui, il y en a, ils aiment. Il y en a, ils aiment faire par les autres, faire par les autres. Il y en a, ils aiment mettre les mains dedans. Ça existe, hein. Regardez Pucheux, par exemple. Hein. Pucheux, il tient absolument à participer à la torture de Politzer, par exemple. Vous voyez, c'est dans les sources, il y a tant dans les sources. Et donc, je m'aperçois que Marc Bloch a raison, quand ces gens contrôlent tout, enfin presque tout. Il y a une force qui ne contrôlait pas dans l'entre-deux-guerres. Donc ils ont mis tous les militants, ou le maximum de militants en prison, avant même d'installer d'ailleurs leur... de réussir leur putsch en 39-40, et ma foi, grâce à des dirigeants républicains, et encore considérés comme tels de nos jours. C'est parce que, enfin, les gens qui pensent ça, ils n'ont pas lu. Hein. Ils feraient bien de lire. Et donc, je me suis rendu compte que ces messieurs avaient, en 1934, établi la formule Pétain-Laval. Ah, bah, c'est par hasard qu'elle a triomphé à Vichy, sans doute, et que ces gens ne pouvaient pas envisager une solution qui déplût à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, alors vous me direz, c'est à cause des soviets. Ceux-là, alors, hein, leur tordre le cou, ça leur faisait plaisir à tous. Ça, c'est vrai. C'est vrai puisque, il faut bien le dire, n'importe qui travaille sérieusement, même pas très sérieusement d'ailleurs, il suffit de quelques documents, sur l'entre-deux-guerres, se rend compte du choc cataclysmique qu'a représenté la révolution bolchevique sur ces gens, sur ceux d'en haut. Plus cataclysmique encore, comme l'explique très bien Arnaud Meyer dans son ouvrage « Violence, passion » qui compare la révolution française et la révolution bolchevique, plus encore parce que les nobles d'Europe, ils craignaient la contagion. Enfin, ils ne possédaient pas le territoire français. Ces messieurs de France, d'Angleterre, des États-Unis, de Suisse, d'Allemagne, ils possédaient la Russie. Ils possédaient toute la Russie moderne. Quand, en novembre 1917, les bolcheviks ont fait... ce qu'ils ont fait, enfin, je ne sais pas si on peut dire ce que vous savez qu'ils ont fait, parce que qui sait encore ce qu'ils ont fait, à part le grand méchant loup. Et donc, oui, l'anti-bolchevisme, l'anti-soviétisme a joué beaucoup. C'est ce que dit Michael Carley, il a raison, mon collègue canadien, à l'ouvrage duquel j'ai consacré beaucoup de lignes. J'ai trouvé qu'il était normal et honnête de le faire connaître en France. En plus, il a été publié en français, donc c'est facile. Et bien sûr que l'anticommunisme et l'antisoviétisme avaient été une dimension très très importante de la haine contre l'URSS, du refus de l'alliance tripartite de 1900, du renouvellement de l'alliance tripartite de 1914, mais que cette dimension ne suffisait pas. D'abord, il faut mesurer qu'elle n'est pas une dimension, comme on le dit toujours et à toutes les sauces, idéologique. La propriété des mines d'or, la propriété du pétrole, la propriété des banques, c'est pas une question d'idéologie. C'est une question de gros sous. Ça ne ressortit pas à la seule catégorie idéologique. Or, même pour les soviets, pour ne pas dire surtout pour les soviets, c'était une dimension essentielle. Il faut y ajouter autre chose, c'est que l'Allemagne était une puissance incontournable compte tenu des intérêts de la grande bourgeoisie française, puisque l'Allemagne était à la fois un énorme débiteur et un énorme client. Comme ces messieurs avaient décidé de ne pas armer ou réarmer, comme Louis Renault, que les hagiographies présentent comme un grand pacifiste. Il était briandiste. Oh ben oui, il était contrarié parce que le contribuable avait si peu contribué à sa richesse pendant la Première Guerre mondiale. Il n'aimait pas l'argent de la guerre. C'est pour ça qu'il ne voulait plus la faire. Vous me direz qu'il faudrait expliquer qu'il l'a faite en 40. Mais non, il n'a pas en fait. Déjà, Renault, vous plaisantez, on n'a jamais réparé de char. On n'en a pas fabriqué non plus. Bon, enfin bref, comme mon grand patron, comme disait très bien Pertinax, Giraud, un grand, grand journaliste conservateur qui a fait un livre extraordinaire qui s'appelle « Les Fossoyeurs ». Il disait « Les marchands de canons ne voulaient plus fondre de canons en France ». Ben non. Comme ils ne voulaient plus fondre de canons et qu'ils avaient à vendre des tas de choses aux Allemands qui, eux, voulaient en vendre, eh bien, ils leur ont vendu de quoi fabriquer des canons. Ils leur ont vendu le fer qui ne servait pas chez nous parce que Renault était devenu brillandiste, nous dit-on. Ils leur ont vendu la bauxite qui permet de faire de l'aluminium et l'alumine aussi, qui permet de faire à un stade encore plus avancé l'aluminium, ce qui a permis de faire des avions pour l'Allemagne. Et ils ont décidé donc non seulement de ne pas faire la guerre à l'Allemagne, mais évidemment d'accepter d'un cœur léger que l'Allemagne la leur fit. Alors c'est délicat évidemment, parce que quand vous décidez de ne pas préparer la guerre contre quelqu'un qui la prépare, vous vous dites, comme disaient mes élèves il y a 30 ans, « Mais madame, mais alors, puisqu'ils savaient, pourquoi ils n'ont rien fait ?» Eh bien justement, ils n'ont rien fait parce que, comme disait Renaud, comme disait Lang, le grand patron de la presse, de l'édition, qui a prêté, de l'imprimerie, pardon, qui a prêté son imprimerie à toute la presse collabo, et même directement allemande, sous l'occupation, vous verrez quand Hitler viendra en France, comme ce sera, comme ça ira mieux. Alors vous me direz, comme Michel Vinocq, qui parle toujours de ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais regardé une archive. Hein. C'est la caricature de, de ce que j'appelle la pensée science-potique. Ça, je ne l'écris pas, parce que science-potique, c'est pas très joli. Vous voyez, de l'historiographie du consensus, comme dit mon collègue américain Soucy. C'est-à-dire, je ne regarde pas une archive, mais je cause quand même. Alors, Monsieur Vinocq, et quand je dis « je ne regarde pas une archive », vous savez, moi, je ne médis pas. Comme j'ai dit au journaliste qui est venu de m'interroger à propos de le journaliste d'Arrêt sur Image, qui me dit « mais Monsieur Dingli, vous savez, le petit-fils par alliance de Renault qui dit « on n'a pas fabriqué de char », il dit « mais Monsieur Dingli, il me dit qu'il a des sources, lui aussi. Ben, » je lui dis « regardez les notes infrapaginales, vous verrez ce que c'est qu'une source. Une source, c'est une source de la période. C'est pas une source a posteriori. C'est pas « mon tonton m'a dit qu'il n'a pas collaboré ». C'est « qu'est-ce qu'il a fait mon tonton ?» mon papy, de 1940 à 1944. Vous savez la question que s'est posée Alexandre Jardin à propos de son grand-père, là, ce qui fait d'ailleurs qu'on discute, on rigole bien tous les deux, parce que il découvre le monde, là. Il croit qu'il a découvert des horreurs, mais à côté de ce qui existe, c'est tout petit encore. Eh bien, sur cette base, je me suis aperçu qu'ils avaient prévu le fascisme, pas du tout, comme dit Vinocq, parce que la classe ouvrière avait exagéré en 1936, parce que c'est ce qu'il dit Vinocq, hein, finalement, les ouvriers. Ça leur est tombé sur le nez parce qu'ils ont un peu exagéré en 1936. Ah bon? Eh bien, s'ils ont exagéré en 1934, en 1936, vous voulez m'expliquer pourquoi en 1934, la solution Pétain-Laval était déjà en route. Les ouvriers n'avaient pas levé un œil. Ils étaient anéantis depuis l'échec des grèves de 1920. Ou pas, ils n'avaient pas encore beaucoup bougé. Donc c'est pas du tout parce que les ouvriers avaient bougé. Et puis dites-moi donc, ils ont bougé les ouvriers allemands? Ils ont beaucoup bougé? Vous êtes au courant qu'ils ont beaucoup bougé? Non. Donc, c'était pas pour les punir d'avoir bougé, c'était pour trouver la solution la plus fracassante contre les salaires. Parce que si vous soumettez les ouvriers, les salariés à la terreur, bah, c'est quand même bien plus sympa pour baisser les salaires de 20, de 30, de 40, de 50%. Oh, vous dites peut-être elle exagère. Eh ben non. Pendant l'occupation, la classe ouvrière française a perdu 50% de son pouvoir d'achat. Et vous voudriez qu'il n'ait pas aimé les Allemands? Et vous voudriez que la Banque de France ait murmuré pour consentir les avances qui permettaient à l'Allemagne de toucher 400 millions par jour, puis 500 millions par jour, comme disait Couve de Murville, directeur des finances extérieures et d'échanges de Vichy, deuxième personnage des finances de Vichy, devenu grand ministre du général de Gaulle, et partant en mars 1943, pas 41, 43. Mais on vous donne de l'argent pour que vous entreteniez 10 millions de troupes. Eh bien, pourquoi il pouvait consentir ça? Parce que en France, ça ne s'était pas passé totalement comme ailleurs. On avait cassé les salaires ailleurs. Or, vous vous direz, ils ont fait ça tout seuls. Eh bien non. Figurez-vous que ils ont installé Mussolini en Italie sur la base des bons vœux des financiers internationaux. L'Allemagne a payé. Elle a payé jusqu'au bout le dernier versement en or à la Banque des règlements internationaux. Elle a eu lieu en avril 1945 à Bâle. Oui, ça, bon, il y a eu un petit trou là, parce qu'on met quand même, il a fallu un peu arrêter les frais momentanément. Mais bon, vous voyez, ça n'avait pas perturbé, hein. Et donc, il faut savoir, je le montre dans le choix de la défaite, que en fait, il n'y a pas là-bas eu besoin d'occupation. Mais la solution hitlérienne est une solution, certes, du grand capital allemand, mais est une solution qui est impossible sans l'aval du grand capital étranger, car le grand capital étranger détient le sort de l'Allemagne entre ses mains, comme je l'ai montré. Et comme les choses ont été réglées dans le cadre de la Banque des règlements internationaux, c'est-à-dire le premier club des banques centrales, bébé du plan américain Young, non pas de règlement des réparations, comme on le dit à la population à qui on dit n'importe quoi, mais comme un plan de règlement de l'endettement dans lequel l'Allemagne s'était mise. Endettement qui avait servi non pas à payer des réparations, mais qui avait permis à l'Allemagne de réaliser le réarmement qui a montré ses performances en 1939 et 1940 et qui, vous le savez, s'est quand même avéré insuffisant à partir du 22 juin 1941. Donc, sur cette base, je me suis aperçue que ces gens qui voulaient établir le fascisme en France, qui ont essayé à plusieurs reprises de l'établir. Ça ne s'est pas fait en une fois, ça s'est fait au moins en trois, pour ne pas dire quatre. Car il y avait déjà un projet des années 20 que j'ai évoqué dans les deux bouquins, qui avait été d'ailleurs aidé par quelqu'un qui allait jouer un rôle politique très important au moment de la trahison finale. Emmanuel Suard, obscur professeur du séminaire de Laval, qui allait être propulsé par sa docilité à l'égard du Vatican et à l'égard des classes dirigeantes françaises, comme cardinal d'abord et archevêque de Paris en mai 1940, le tout après d'ailleurs qu'on eût fait disparaître son prédécesseur qu'on trouvait un peu chipoteur. Donc, ces messieurs ont négocié ensemble. Ils ont négocié dans les grandes lignes, puis ils ont négocié dans le détail. Et en France, il n'a pas été possible de faire ça juste par ce type d'accord que montre par exemple la discussion entre le futur gouverneur de la Banque de France, Yves Bréard de Boissanger, avec une personnalité financière italienne d'une importance considérable. C'était le chef de l'IRI, de l'Institut de Reconstruction Industrielle, qui était le machin, si je puis dire, l'organisme par lequel se faisait l'essentiel du financement public de la production privée sous Mussolini. Boissanger était venu le voir. C'est une des choses que j'ai saisies, hein. Je ne les ai pas saisies toutes, mais la conversation que je raconte dans Dominique à Vichy est quand même très éclairante. Il lui propose un accord Vous savez, ce que ceux qui ne savent même plus parler français appellent un deal. Un accord. Un accord, bon, alors évidemment, ça passe par la liquidation de l'alliance tripartite, à laquelle ces messieurs, naturellement, n'avaient seulement jamais fait semblant de croire. Et puis il explique, voilà, si on passait accord aujourd'hui, ce serait invraisemblable, dans des circonstances terribles, vous savez, dans des circonstances terribles, une bombe, un avion qui passe ici, tout ça, tout peut changer. Alors vous dites, ah, vous entendez les perroquets de la télé, oh, la théorie du complot, ah, oh, ben oui. Regardez la conversation de Boissanger, qui dit, mais dans quelque temps, les choses invraisemblables aujourd'hui peuvent devenir vraisemblables, on peut aider un peu. Hein. Et par conséquent, nous sommes en mesure de créer les conditions d'un accord futur. Ben, vous savez ce que ça a été, les conditions d'un accord futur? C'est que la France prenne la pâtée qu'on a connue. Et que pour ça, on fut en mesure de mobiliser toutes les classes dirigeantes, y compris celles du haut état-major. Alors, oh, vous vous dites, parce que par exemple, vous avez entendu parler de l'affaire Tukhachevski. Tukhachevski se fait passer par les armes en 1937 pour avoir négocié avec les Allemands, notamment la cession de l'Ukraine. Pendant longtemps, les historiens étaient très prudents sur ce coup, jusqu'à une période très très récente. Il n'y a qu'en France. En France, on raconte tellement n'importe quoi que, vous savez, mais pas aux États-Unis, par exemple, hein, quand même, auquel on ne refusera pas une certaine primauté dans l'élaboration de la stratégie ou de la tactique de la guerre froide. Et puis, moi, j'ai vu les fonds. Eh ben oui, Tukhachevski, oui, il a négocié avec les Allemands. Pas seulement pour dégommer Staline, quand même, hein, pour donner l'Ukraine aux Allemands. C'est plus de l'opposition politique, ça s'appelle de l'intelligence avec l'ennemi. Quand vous ouvrez les frontières à l'ennemi, ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc lui, il a été passé par les armes, avec 8 autres. Enfin, pas 8, parce qu'il y en a un qui s'est suicidé. Et alors, à l'époque, quand vous regardez les sources, il y a des hommes politiques français, y compris un peu conservateurs même, qui ont dit, vous voyez par exemple Herriot, qui font passer le chef du Parti radical, qui font, comme mes collègues font aujourd'hui, passer pour un crétin. Il a rien vu, t'es allé en Ukraine, il a rien vu, il a pas vu les monceaux de cadavres, il a rien vu. Il a traversé l'Ukraine de part en part, je le sais, parce que j'ai vu les sources sur les voyages d'Herriot avec notre ambassadeur en poste, le seul qui a été pour l'Alliance. Hein. Charles Alphand. Il n'a rien vu, c'est un crétin, il n'a rien compris. Vous savez ce qu'il a dit, Herriot, quand Tukhachevski a été passé par les armes? Ben oui, il n'avait que ça à faire, de toute façon, il avait trahi. Et chez nous? Et chez nous? Vous savez ce qui se passait en 1938? Quand on mobilisait, quand on disait aux Français qu'on mobilisait avant Munich, le chef d'état-major, le sous-chef d'état-major général, s'en allait voir son petit copain allemand attaché militaire et lui disait « On mobilise, mais vous inquiétez pas, c'est une mobilisation bidon. » Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les archives allemandes qu'il faut aller lire, qu'ils disent. Et les publier, je vous prie. Pas même les originales, les publier. Mais mes collègues, qui ont quelque chose à dire sur la théorie du complot, ou les journalistes qui ont besoin de conseillers historiques, qui vont pas dans les archives. Pourquoi ils vont pas les regarder, ces sources-là? Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de l'intelligence avec l'ennemi. Dans la période considérée, vous savez de quoi c'était puni? De la peine de mort. Article 75 et suivant, d'atteinte contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà pourquoi. Alors, vous me direz, ils avaient des projets extérieurs, puis ils avaient des projets intérieurs. Ils ont tenté, en 1934, en février 1934, oh, disent mes collègues du consensus, ce sont des petits bourgeois mécontents, indignés par la pourriture de la République. Indignés. qui, voilà, se sont retrouvés aussi place de la Concorde. Non. C'est la première étape du putsch. Vous direz excessif. Lisez donc les comptes rendus. Alors ça, c'est pas une source extraordinaire, hein. J'en ai d'autres, bien sûr. Mais c'est une source banale. C'est la commission parlementaire du 6 février 1934. Elle existe, vous pouvez aller la trouver dans n'importe quelle grande bibliothèque. Ah, ben oui, c'était un hasard, les 127 télégrammes de Delarocque. Vous savez, le pas fasciste de M. Vider, il paraît qu'il y a des signatures qui l'ont écrit, qu'il était pas fasciste, et puis ses petits-enfants le disent aussi, hein. Son fils aussi, ou son petit-fils, je ne sais plus. Première étape réalisée, passons à la deuxième, rapportée par un flic, un brave flic de province qui dit, ben voilà, voilà, nous, on a fait les contrôles, on a reçu signe des 127 télégrammes. Mais pourquoi les bien-pensants ne vont pas les chercher, les télégrammes? Donc ça échoue, la classe ouvrière n'a pas encore bougé. Les ligues fascistes, les partis de droite, il y en a qui découvrent l'Amérique. En ce moment, il y a une porosité extraordinaire entre la droite et l'extrême droite. C'est neuf? Ça vient de sortir? Eh bien non! Ça s'est passé dans les années 1930, figurez-vous. Financé toujours par les mêmes. Enfin, en plus, maintenant, ici, on le sait, même si on n'avait pas voulu le savoir, parce que ce qui s'est passé à l'été 2010, le financement des partis par Dame Bettencourt, qui n'est autre que la fille de Schuller, patron de L'Oréal, grand cagoulard, Sienark aussi, qui a financé la cagoule d'avant-guerre, qui a été chef de la cagoule pendant la guerre, ça s'appelait le MSR, Mouvement Socialiste Révolutionnaire. Vous savez, vous connaissez les antiphrases et les antimots ou les antonymes. Vous voulez désigner quelque chose, vous le désignez par exactement son sens antagonique. Révolutionnaire. C'est joli, ça fait bien dans les années 30 où se manifeste une certaine radicalisation. Là, ça veut dire contre-révolutionnaire. Eh bien, des gens comme Schuller, le Grand Capital, le Comité des Forges qui avait fait le 6 février 1934, c'est dans la commission parlementaire. La Banque de France, tous ces gens avaient tenté un premier coup. Ils ont fait une réorganisation politique qui a permis de faire la suite. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi avant 1940? À cause de 1936, justement. C'est quand la classe ouvrière a bougé qu'elle les a bloqués déjà au moins 2 ans. 2 ans, bien. Après, non. Et bien, ma foi, puisqu'on ne pouvait pas par simple accord financier international, parvenir aux résultats italiens et allemands. Je vous laisse de côté l'espagnol, parce que l'espagnol, si vous me lisez, vous verrez comment on a multiplié les bobards avec la gouvernante anglaise. Le capital français n'a pas besoin de gouvernante anglaise pour étrangler l'Espagne républicaine, Blum compris. Et donc, ça explique comment, une fois la classe ouvrière vaincue, car elle est vaincue en novembre 1938, dans des conditions que j'explique dans Dominique à Vichy, plus avant que dans le livre Le choix de la défaite, dans les conditions de la défaite cinglante de la classe ouvrière en 1938, ces messieurs sont dans de bien meilleures positions pour continuer cette collaboration économique qui fonctionne si bien depuis les années 1920. Si bien. Par exemple, avec la constitution en septembre 1926 du cartel international de l'acier. C'est quoi la séca? C'est ça en mu. Voilà d'ailleurs l'acte véritable de naissance de l'Union européenne dont certains veulent croire que un beau jour elle a abandonné sa vocation première qui était de faire une Europe sociale pour faire plaisir à toutes les populations et prise de paix. Ça se serait gâté seulement récemment. Non. Donc, on avait pratiqué une collaboration économique extrêmement fructueuse. On avait gagné de l'argent ensemble. Pour continuer à gagner de l'argent ensemble et écrabouiller mieux les salaires qui n'avaient été faits jusque-là, même après la défaite de 1938, il n'y avait qu'une solution, c'était la solution militaire. Il y aurait bien guerre, parce que ça tout le monde le savait qu'il y aurait guerre. Le capital avait besoin d'une guerre générale compte tenu de la gravité de la crise. Qu'à cela ne tienne, l'Allemagne la ferait, la France pas. Et ça vous explique comment un pays qui avait tenu 4 ans dans les conditions épouvantables qu'on sait, a été vaincu, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 6 semaines, en 5 jours, pour ne pas dire en 2. C'est-à-dire avec un Unziger ouvrant la porte de Sedan aux armées allemandes. Et d'ailleurs, il paraît, je vais les rencontrer, qu'il y a une série de jeunes gens de Sedan héritiers de moins jeunes gens, qui depuis des décennies, pour les plus vieux et depuis quelques années pour les plus jeunes, ont découvert sur Sedan des choses qui leur ont rendu le choix de la défaite très sympathique. Parce qu'évidemment, ils passaient toujours pour des fous à traquer sur un papier que personne ne lisait, des notes, sur ces choses extraordinaires qui s'étaient passées à Sedan à partir du 12 mai 1940. Voilà comment, en 5 jours, avec la complicité de la quasi-totalité des chefs des partis républicains, vous m'entendez bien, de la quasi-totalité des chefs des partis républicains, SFIO incluse, militants communistes, là où ils étaient le mieux pour ces gens en prison ou en fuite ou en exil. Voilà pourquoi la France a connu la défaite la plus ignominieuse de son histoire, qui fait qu'une grande puissance en est réduite d'ailleurs aujourd'hui à jouer le rôle de caniche d'une puissance devenue la plus grande puissance disons, depuis la Première Guerre mondiale. Et voilà pourquoi la guerre et les conditions dans lesquelles elle a été conduite ont permis d'inverser les conditions auxquelles je pensais moi-même quand j'ai fait industriel et banquier. Voilà pourquoi les choses ont permis, non pas d'installer la collaboration, mais comment la collaboration si prospère, si extraordinaire, tellement extraordinaire que les banques prêtaient à l'Allemagne qui se réarmait à partir des années 20 et plus encore des années 30, parce que l'Allemagne était plus rémunératrice, l'Allemagne écrasée par la dette était plus rémunératrice que n'importe quelle autre entreprise internationale. Voilà pourquoi la défaite ignominieuse a permis que cette collaboration se poursuivit dans des conditions excellentes. Mon livre « Industriel et banquier » reste très solide sur tout ce qui concerne la collaboration. Il répond de manière ferme aux questions qui étaient posées alors. Nom d'un chien, est-ce qu'ils ont collaboré? Non, pas seulement parce qu'ils ont été obligés de collaborer, mais parce que cette collaboration a été la poursuite de la collaboration antérieure. J'avais mis déjà l'an, parce que j'avais fait un chapitre entier sur la collaboration antérieure. Eh bien oui, La collaboration n'a pas été la conséquence de la défaite, la collaboration a été la cause de la défaite française. Et quand vous regardez l'évolution de l'Union européenne, ou la naissance officielle de l'Union européenne, à laquelle j'ai consacré un tout petit ouvrage, mais quand même de très nombreux articles au cours de ma carrière, finalement si on les mettait bout à bout, ça ferait un gros livre, mais je vais en faire un de ces jours, avec d'autres sources évidemment que celles que j'ai utilisées il y a 20 ans, si on a bien ça en tête, eh bien on met cul par-dessus tête toutes les âneries qu'on voudrait nous faire prendre pour de la vérité historique. Parce que, comme dit très bien l'auteur d'un texte extraordinaire du 15 septembre 1938, que j'ai souvent cité dans Le choix de la défaite ou dans Dominique à Vichy, les Français, comme tous les autres peuples, ou presque tous les autres peuples, avaient subi le feu roulant de l'idéologie dominante qui est, je le rappelle, au risque de paraître ringarde, l'idéologie de la classe dominante, la France était en situation d'être dindonnée, c'est-à-dire trompée du matin au soir et du soir au matin, par la presse qui appartenait aux grandes puissances d'argent, qui faisait en sorte que la population crut ses bêtises et crut au surplus qu'elle les croyait spontanément. Exactement comme aujourd'hui, nous sommes un certain nombre, je m'en réjouis, un nombre de plus en plus grand au fil des jours, à résister sur les listes universitaires aux collègues qui piaffent comme la pie qui chante et qui nous disent que « Oh là là, on ne pouvait pas laisser écraser des révolutionnaires libyens. » Ben tiens, pourquoi on les laisse écraser ailleurs ? Sans mettre des bombes. Hein ? Voilà. Évidemment, si les Français sont dindonnés au début, dans l'actualité, s'ils sont dindonnés en histoire, parce que vous ne voudriez pas tout de même, pour dindonner dans l'actualité, il faut dindonner en histoire. Si vous ne donnez pas en histoire, si vous libérez l'histoire, vous rendez les gens intelligents sur l'actualité. Si vous verrouillez l'histoire, c'est fini. Enfin, c'est fini. La conjoncture aide quand même. De telle sorte que, avec les sources, toujours avec les sources évidemment, il ne faut jamais s'effrayer de ce qu'on trouve. Plus c'est gros, plus ça passe. Avec les sources, vous avez les moyens de reconstituer, en effet, que plus c'est gros, plus ça passe, et que, en effet, on peut tromper beaucoup de gens longtemps, en même temps, au contraire de ce que disait une remarque d'un Anglais du 19e siècle, presque tout le monde peut être trompé en même temps, et même sur une période assez longue. Voilà pourquoi, sur la base des sources, il faut faire preuve d'un esprit critique qui a évidemment une très grande utilisation, pour ne pas dire une très grande utilité, dans les conjonctures guerrières, comme celle dans laquelle d'entrer la France, et sur fond de crise générale qui requiert de plus en plus de guerres, pour ne pas dire une guerre générale, qui serait quand même une ressource tellement précieuse pour se débarrasser de l'excédent de forces productives, matérielles et humaines. Vraiment, sur aucune question, la connaissance générale n'est parvenue, alors même que des travaux très importants existent. La Grande-Bretagne a pris une position qui ressemble beaucoup plus à celle de la France qu'on ne croit. Mais finalement non, puisque comme vous le dites, elle a fini par se battre. Comme vous le savez, les classes dirigeantes anglaises ont fini par déclarer sous la direction de Churchill qu'il convenait de se battre, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elles avaient longtemps hésité. puisque l'Angleterre a constitué une sorte de modèle de ce qu'on appelle l'apaisement, et que nos parents pouvaient nous expliquer quand nous étions enfants, alors que aujourd'hui, un adulte de 40 ans serait bien en peine de l'expliquer à ses jeunes enfants. Il y avait en Angleterre, comme en Belgique par exemple, d'abord surtout un camp qui est devenu, qui s'est divisé notamment avec la démonstration qu'un compromis avec le Reich était impossible, même en matière coloniale. Mais il a existé longtemps. Et il y a, c'est une question que j'aborde dans le choix de la défaite, parce que c'est une grande question, bien que dans le choix de la défaite, mon propos extérieur soit avant tout d'éclairer les relations franco-allemandes et les relations franco-soviétiques. Mais la question britannique a une telle importance que je suis bien sûr obligé de la traiter, ne serait-ce que pour balayer l'argument de la gouvernante anglaise, pour démontrer que c'est un argument parfaitement reconstruit et qui n'explique pas la politique française. Les milieux dirigeants ont cherché pratiquement jusqu'au bout à trouver le même accord avec l'Allemagne que les milieux dirigeants français. Ils ont connu la même évolution anti-américaine, car l'impérialisme américain était extrêmement dur dans la crise des années 30. C'est-à-dire qu'il était comme tous, hein. Il voulait régler la crise dans son seul intérêt, ce qui passait par le rouleau compresseur éventuel sur les intérêts des impérialismes rivaux. Donc tout le milieu dirigeant représenté par la clique de celui qu'on fait passer pour un crétin à petit chapeau et grand parapluie, voilà, Chamberlain et la clique Halifax, etc., et la clique de la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire Montagu Norman, c'est-à-dire les hommes qui étaient les hommes du choix allemand, qui ont négocié avec l'Allemagne tout le temps, qui ont continué à négocier pendant la guerre, évidemment le compromis suivant. Tout ce groupe-là qui a fait la politique d'apaisement, qui a incarné la politique d'apaisement, je vais vous donner un seul exemple. On vient nous raconter que, à partir du 15 mars 1939, impeccable, ça y est, on comprend, on prépare la guerre, l'alliance tripartite, etc., en France, en Angleterre. Le tournant, vous verrez les sources. Aucun tournant. Après le 15 mars, vous savez que le 15 mars, les équipes françaises ou les équipes anglaises, de représentants des milieux financiers ou fonctionnaires, etc., sont à Berlin pour discuter. On continue à discuter. Les Français n'osent pas rester, ils repartent en disant qu'ils vont revenir dans les semaines qui vont venir. Et vous croyez qu'ils ne reviennent pas ? Oui, ils reviennent. Et on passe des accords, on proroge des accords en juillet 1939, comme les Anglais. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement les milieux britanniques ? Où la thèse Churchill l'a emportée ? Thèse Churchill qui était également tardive. Car il ne faut pas l'oublier, la grande obsession de Churchill, ça a été la révolution bolchevique. Hein. Churchill est un des chefs de la coalition contre la Russie soviétique qui se retrouve avec, j'oublie le nombre de dizaines de pays sur son sol, mais enfin, des par dizaines, hein, dirigés par la France et l'Angleterre, y compris Churchill. Donc Churchill, il bascule vers 1935-1936 et même au-delà. Et au fond, les classes dirigeantes anglaises, comprenant à partir de 1936-1937 que dans la négociation avec les deux impérialismes, il est plus astucieux de chercher le compromis rapide avec l'impérialisme américain et d'abandonner les espérances mises dans l'impérialisme allemand, ça se fait. Et c'est illustré notamment par les conditions de l'éviction du roi dont on vous fait croire qu'il est parti, Édouard VIII, parce que le pauvre chéri, il avait épousé une dame divorcée. La dame divorcée, c'était une espionne de Ribbentrop. Quand il y avait un conseil de cabinet, Ribbentrop connaissait le contenu dans les 5 minutes qui suivaient. La dame Simpson, c'est une espionne allemande, d'origine, enfin, de nationalité américaine, mais de cœur allemand. Et les sources sont claires. Hein. Donc pourquoi, finalement, même les apaiseurs finissent par se débarrasser d'Édouard VIII? Parce que les camps, les divergences à l'intérieur du grand capital britannique, et notamment la prééminence des intérêts de l'Empire, font que ils choisissent, avant le capital français, la voie future de la Pax Americana. Les nôtres choisissent, pratiquement sans exception, la voie allemande et commencent à négocier la Pax Americana suivant les cas entre 1941 et 1944. Ça va même être le thème de mon prochain livre. Comment ils sont passés de l'amour pour le Reich à la passion pour les États-Unis. Eh bien, les Anglais, en 1940, pour ne pas dire... parce qu'en 1939, il y a un cabinet de guerre risible. Il y a toujours Chamberlain, il y a toujours Halifax. Le 10 mai 40, il y a le fameux cabinet de guerre de Churchill. Ben vous me direz, alors on a viré tout le camp de l'apaisement? Mais pas du tout. Vous savez ce qu'on fait d'Halifax? L'homme symbole avec Chamberlain de la politique d'apaisement et de capitulation. On l'envoie, ça ne vous surprendra pas, négocier de futures autres capitulations. On l'envoie comme ambassadeur à Washington. Et il négociera l'accord avec l'impérialisme puissant, désormais puissant, auquel se rallieront des gens comme le Hideux, qui en 1942... Ben, vous pouvez lire l'article qui se balade sur le net, mon article « Renault et la fabrication des chars pour la Wehrmacht ». Vous verrez comment le Hideux, qui était l'homme du cartel franco-italo-allemand de la voiture, et qui disait en 1940, 1941, 1942, pas une voiture américaine en Europe, est devenu en 1950 le président directeur général de Ford France. Et mon excellent collègue Scott, est-ce que Scott est, je crois que c'est son nom, a fait un bouquin, il figure dans la biblio du choix de la défaite, un bouquin qui s'appelle The Prophets of Peace, Newton je crois, Scott Newton, a fait un bouquin qui s'appelle The Prophets of Peace, les profits de la paix, il n'a pas été traduit, qui montre que les négociations avec le Reich se prolonge jusqu'en 1941, vous m'entendez, en 1941. Et on reprend en 1942, parce que qu'est-ce qui se négocie à partir de 1942? Le retournement des fronts, qui bat son plein à partir de 1943. J'en ai montré quelques éléments, sources comprises, dans la réédition de mon bouquin « Le Vatican, l'Europe et le Reich ». Et évidemment, ça va être une partie très importante de mon nouveau livre, puisque je vais montrer ce qu'ont été ces tractations franco-anglo-américano-allemandes de 42-44. Qui vous explique en effet que, semblant très puissante, l'Union soviétique avait déjà les pattes complètement liées au moment où la guerre s'est terminée. Il ne lui restait guère qu'à panser ses plaies, à bénéficier d'un glacis de sécurité pour quelques décennies seulement. Alors j'ai fait il y a quelques années, il y a des tas d'autres historiens comme moi, et beaucoup d'historiens étrangers, qui ont fait très très bons travaux sur la Suisse et la Suède. Il y en a des paquets. J'ai fait il y a un certain nombre d'années un article qui doit même figurer sur mon site. S'il ne figure pas sur mon site, je le mettrai sur ma liste de diffusion, sur les relations entre la Suisse, l'Allemagne et les États-Unis, la Suède aussi. Évidemment, l'historiographie suisse a été très très riche depuis les années 1990 là-dessus. Ni la Suisse ni la Suède n'ont été des pays neutres. Ça a été des pays extrêmement favorables à l'Axe. Très très favorables à l'Axe. Vous verrez là-dedans une biblio, malheureusement presque exclusivement en langue étrangère, ou en anglais ou en allemand, mais il y a par-ci par-là quand même un bouquin en français, et puis comme j'ai donné des tas d'indications, vous y voyez que, là encore, on a des pays qui se sont des petits pays privilégiés, parce que la Suède était une source, la Suisse est une source extraordinaire à la fois d'information et de protection du capital. Donc la Suisse, je veux dire, elle est bétonnée, Première Guerre mondiale, c'est même là que s'est tellement développée sa tradition de mettre, de blanchir l'argent. Deuxième Guerre mondiale, si on a une troisième, il y a des chances qu'elle soit dans la même situation, sachant que elle est quand même extrêmement favorable à l'Axe et que le clearing, c'est-à-dire la procédure, en gros la fausse procédure de troc qui continue à s'appliquer pendant la guerre, qui est un des modes de financement de l'Allemagne pendant la guerre. Il y a deux modes de financement hein, pour les pays occupés. La Suède n'est pas un pays occupé, elle n'en connaît qu'un. Il y a les frais d'occupation et il y a ce qu'on appelle le clearing. Donc le clearing, c'est plus un clearing. Le clearing, ça s'est établi comme mode de règlement, comme mode de paiement quasi exclusif de l'Allemagne dans la période de la crise. L'Allemagne n'avait pas de devise. Quand l'Allemagne a eu de l'or, c'est qu'elle l'a volé à partir de 1939. J'ai travaillé là-dessus aussi. J'ai fait un gros article qui m'a valu une tentative de censure au deuxième pour le bouquin qui d'acte du colloque du bicentenaire de la Banque de France, mais finalement qui est passé. Et j'explique justement cet aspect, un de ces aspects du commerce international sous l'occupation. Donc, il y a le clearing qui, en l'absence de devise, était devenu le mode privilégié, voire exclusif du commerce extérieur allemand. En quoi ça consistait ? J'ai pas de devise, j'échange avec vous, vous me vendez ceci, je vous vends cela. Et on négocie le solde éventuel en monnaie respective. Donc ça, c'était les années 30. Ça avait été extrêmement favorable pour l'Allemagne, puisque ça lui avait permis de phagocyter tous les pays qu'elle allait occuper officiellement ou officieusement. Ça lui a permis de contrôler entre la moitié et les trois quarts du commerce extérieur, par exemple, de toute l'Europe orientale. Sauf la Tchécoslovaquie, ou partiellement, sauf la Tchécoslovaquie avant 1938, puis après 1938, évidemment, la question ne se pose pas. Mais pendant la guerre, il n'y a plus de clearing. Là, on en reçoit, on ne donne pratiquement plus rien. Donc c'est un financement pur. Eh bien, mes collègues suisses, moi aussi, mais mes collègues suisses ont une nette avance et beaucoup plus de précision, ont montré, et vous trouverez les références, y compris d'ailleurs dans mes derniers livres, parce que j'ai cité ceux en français, mes collègues suisses ont montré que ça devient du cadeau pur. Il y a un clearing qui a été évalué à plus d'un milliard de francs suisses, qui a permis à l'Allemagne de fabriquer en particulier une partie considérable de son matériel de précision dans l'armement. L'optique, vous voyez, les trucs extrêmement pointus qui ont assuré la fortune ou le renforcement énorme de la fortune du grand capital helvétique qui est probablement presque dans son entier. Alors ne parlons pas de la Suisse alémanique. La Suisse alémanique, en Suisse alémanique, la question ne se pose même pas. Mais enfin, il y a des arrangements avec Hitler, même dans la Suisse pas alémanique. La Suède, c'est pareil. J'ai des collègues qui ont fait, mais j'aborde la question dans l'article dont je vous parle. Vous verrez à quoi ça conduit. Ça conduit d'abord à des dissimulations de capitaux extraordinaires. Il y a à la veille de la guerre toute une série de sociétés allemandes qui deviennent officiellement des sociétés suisses ou suédoises avec hommes de paille. Les principaux hommes de paille en Suède, c'est la famille Wallenberg, c'est-à-dire la famille de la Bankenskilda qui tient la Suède encore aujourd'hui. Hein. Parce que ça n'a pas changé chez nous, ça n'a pas changé chez les autres non plus. Hein. Bon. Et donc, la Suède est un fournisseur énorme, vous le savez, la Suède c'est le fournisseur du fer. Voilà. Hein, les Allemands ont deux sources essentielles. Le fer suédois et le fer français. Donc, la Suède non seulement a fourni le fer, la Suède a fait défiler des trains entiers de soldats allemands passant par le territoire suédois, la neutralité se traduisant par le fait qu'il y avait des trains de soldats et il y avait des trains d'armement. Ils n'étaient pas ensemble, mais arrivés à destination, ils se retrouvaient. Bon. Donc, et ça vous explique évidemment les développements de l'après-guerre, les moyens de pression des Américains sur les Suisses, le fait que tout ça s'arrange très bien, et ce que j'ai étudié. Vous regardez, vous cliquez sur mon site, vous trouverez le CV de mes travaux, et si jamais ça n'y figurait pas, par le site, vous m'écrivez et je le ferai, je le mettrai, mais je me demande si j'ai pas déjà, j'ai affiché déjà beaucoup d'articles sur mon site. Donc vous voyez, faux neutre, pro-allemand, devenu très pro-américain et anti-soviétique, juste comme il faut. Qui n'avait pas reconnu l'Union soviétique, qui ont fait tout pour être méchants avec elle avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant, qui ont couvert des horreurs. Une des horreurs d'ailleurs les plus célèbres, c'est le fait que la Suisse, par la Croix-Rouge internationale, qui était entièrement phagocytée par la chimie allemande, a organisé une véritable mascarade en allant sur le front russe, et en disant que tout se passait très bien, et il y a un malheureux médecin honnête qui est revenu horrifié de ce qu'il avait vu, parce qu'il suffisait d'aller n'importe où sur le front, évidemment, pour voir ce que faisaient les Allemands en Russie, pour voir ce qu'était cette guerre d'extermination. Et bien entendu, le pauvre malheureux, il a perdu son poste, son honneur, enfin son honneur, non, il ne l'a pas perdu, mais... En apparence, évidemment, sur le court terme, il a semblé le perdre. Et ça permet quelques contritions, comme vous savez. Je me repens beaucoup et je recommencerai la prochaine fois. Quant au rôle de la hiérarchie catholique, il est un rôle considérable. Puisque ce que je ne savais pas quand j'ai fait la première... Vous voyez, on progresse. Ce que je dis, l'histoire, ça se révise. Moi, quand je fais une réédition, vous êtes tranquille, hein. Dans le deuxième, à la deuxième édition, vous risquez de ne pas retrouver le même livre. Alors, ça n'est pas vrai pour le choix de la défaite. J'ai modifié un certain nombre de choses sur 38-40, mais bon, quand même, sur 30-38, j'ai modifié peu de choses. Tandis que pour le bouquin sur le Vatican... Comme je l'avais publié en 1996 et que beaucoup d'archives avaient été consultées depuis, il a été évidemment précisé sur un certain nombre de points. Je peux vous dire qu'en 1996, je ne savais pas à quel point le Vatican, je le mesurais, mais je ne savais pas jusqu'où le Vatican était allé dans la complicité avec le putsch, et non seulement avec le putsch, mais avec les négociations de trahison. Puisque l'Église a assuré, et le Vatican, et l'Église française, sur ordre de du Vatican, ont assuré les négociations de drôles de guerre, puis les négociations de guerre qui ont eu pour résultat l'assassinat par la cagoule du prédécesseur de Suard, Monseigneur Verdier, qui était considéré comme pas assez pro-Axe, et Suard, qui avait déjà beaucoup servi, a encore beaucoup servi, puisque c'est lui qui a été à peine intronisé, envoyé négocier avec les Espagnols de Franco, pour lesquels l'Église catholique avait tant fait. Donc Suard, et alors je vais vous dire, voyez pourquoi les archives, ça ne me trompe pas. Il y a des gens qui vous disent, ouais, mais elle interprète les archives. Oh. J'interprète aussi les archives de la SNCF. Voyez par exemple, quand on a les traces du voyage de Suard, les dates, l'heure d'aller, l'heure de retour, c'est impitoyable les archives. Et qui vous retrouvez en 1943 ? En 1943, début 1943, tout affolé et porte-parole de la grande bourgeoisie catholique et collaborationniste française, prête déjà quand même à être avec la grande bourgeoisie juive, éventuellement un peu plus compréhensive pour l'avenir, qui vous retrouvez ? Qui file à Rome pour vérifier si les Américains, je cite, occuperont complètement la France comme l'Allemagne l'a fait. Suard, porte-parole, toujours. Donc la responsabilité de l'Église est écrasante. Et la responsabilité de l'Église est écrasante dans un domaine que je connaissais bien, mais que l'ouverture des archives a permis de connaître bien mieux, sans parler des remarquables ouvrages inconnus chez nous, pour la plupart pas traduits, pour ne pas dire pour la totalité non traduits, qui ont été publiés depuis, disons, les années 2000, qui montrent le rôle de l'Église catholique dans l'exfiltration et le sauvetage, recyclage, pas seulement le sauvetage, recyclage des plus grands criminels de guerre, dont je dis dans la nouvelle édition ce que je ne pouvais pas dire en 1996, que ça a constitué l'activité la plus importante de l'Église romaine de 1943, sachant que les choses avaient été mises au point en 1942. Vous voyez comme ils sont bons. Pourquoi ? Parce qu'en 1942, ils savent bien que l'Allemagne va prendre la pâtée. Donc il faut réorganiser les forces. De 1943 à 1945. Et je vous signale à cet égard l'ouvrage qui, de manière vraiment scandaleuse, n'est pas encore traduit en français. L'ouvrage d'Ukigoni, qui s'appelle Odessa, qui est l'étude de la filière Odessa, c'est-à-dire de la filière argentine, qui a connu deux éditions, une édition de 2002 en espagnol, s'il y a parmi vous des hispanisants, mais l'édition de 2003 a cet avantage en anglais, qu'elle comporte une postface qui ajoute quelques éléments sur le Vatican. Ce livre est une bombe qui, comme il est ordinaire, n'explose pas en France, car vous pouvez coller n'importe quelle bombe. En France, le rideau de fer ou le douchage préalable empêche l'explosion de toutes les bombes. C'est un livre, si vous voulez, c'est un livre indispensable sur cette affaire. Puisque l'Église séculière, le clergé séculier comme le clergé régulier ont consacré sur ordre du Vatican une partie essentielle de leur activité à cette exfiltration et à ce sauvetage. Et le livre d'Ogoni montre comment, par exemple, Barbie, dont vous connaissez peut-être le film américain qui lui a été consacré, car il y a un Barbie après la Deuxième Guerre mondiale, hein, n'y a pas que le Barbie torsionnaire de Lyon. Comment Barbie a été utilisé pour, dans le pays d'Amérique latine qui l'a accueilli, former les torsionnaires utiles pour écraser le mouvement démocratique dans le pays d'accueil, comme ça s'était fait un peu partout. Et il y a une scène stupéfiante, extraordinaire, où un des chefs oustachis, devenu Draganovitch, qui est un vrai agent oustachi, enfin un type les mains pleines de sang, clair entre eux, entre autres, qui est un des chargés de l'exfiltration, qui est le principal responsable de la filière croate. 30 000 sauvetages quand même, hein, y compris Ante Pavelić. Hein, vous savez, l'archevêque de Zagreb, là, le béatifié, lui c'était seulement le deuxième criminel de guerre de la Yougoslavie, c'est un de ceux qui sont restés sur place. Eh bien, Draganovic, lui, est parti, on comprend, et c'est lui qui est chargé en personne de faire partir Barbie, non pas en Argentine comme il l'a espéré, mais finalement, où est-ce qu'il a atterri déjà? C'est pas en Colombie Non. Bon, ça m'échappe, enfin. Bolivie, voilà. Il n'a pas pu rester en Argentine, il est allé en Bolivie. Draganovic l'accompagne. Le dépose d'ailleurs d'abord en Argentine, et puis finalement, ça ne se fait pas. Et à un moment de leur conversation, Barbie lui dit, mais finalement, pourquoi vous consacrez tant d'efforts à nous? Et Draganovic lui dit, parce que nous préparons la réserve. Et Gogny, qui a le sens de la formule, qui a le sens de l'histoire, dit, voilà, ce sont ces gens qui ont été utilisés en Argentine dans les massacres, puisque ce sont eux qui ont formé les officiers massacreurs. Comme vous le savez d'ailleurs, notre armée française, armée de massacres depuis les bonnes traditions créées par la conquête de l'Algérie, armée coloniale, a été une formatrice de très grande envergure de tous les massacreurs qui ont sillonné les continents depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui nous motive en effet pour venir au secours des révolutionnaires de Libye. Il y a un moment réel de collaboration germano-soviétique, mais antérieur à 1933. La collaboration dont vous parlez, c'est une vraie collaboration, y compris d'ailleurs dans la contribution à l'armement, il faut le dire. C'est comme ça d'ailleurs que Tukhachevski a été mis en contact comme une partie très importante de l'armée allemande avec la Reichswehr, puisque l'Union soviétique est un des pays dans lesquels l'Allemagne a pu s'entraîner, c'est incontestable. Hein. Et il faut que vous sachiez qu'en 1932, le seul pays qui demeurait encore un énorme client pour l'Allemagne, c'était l'Union soviétique. C'est quelque chose qui disparaît de 1933 à 1939. Et c'est quelque chose, au contraire des bruits qui circulent, qui n'est pas rétabli de 1939 à 1941. Et vous verrez, en me lisant, à quel point les Français le savent, puisqu'aussi bien, même nos militaires complètement excités qui en 1939-40, dans la drôle de guerre, ne prévoient qu'une chose, de manière d'ailleurs purement cosmétique, moi je crois le montrer, une attaque contre l'Union soviétique, soit par le nord, soit par le sud, reconnaissent qu'il n'y a pas de courant économique important entre l'Union soviétique et l'Allemagne, et que ce courant sera important quand l'Allemagne sera en Union soviétique, mais sans avoir demandé la permission. Donc, non seulement on nous ment sur le pacte germano-soviétique, dont Jeffrey Roberts a fait l'histoire, mais le pauvre Jeffrey Roberts, il n'est pas traduit en français. dont j'ai fait l'histoire pour ma part, lui avec les archives allemandes et soviétiques, moi avec les archives françaises, toutes sauf soviétiques. Non seulement le pacte germano-soviétique n'a rien à voir avec le monceau de bêtises qui règne dans ce que j'ai honte d'appeler l'historiographie française, parce que le véritable torchon de Santa Maria qui s'appelle le pacte germano-soviétique est indigne. Il n'a pas consulté une source. Ah ben, c'est un ouvrage cité par tous mes collègues, y compris Pentier et Bess, dans leur ouvrage juin 1940, qui nous a refait du neuf avec du vieux, qui nous a ressorti la demande de reparution de l'humain, etc. Et quand il vous parle du pacte germano-soviétique, il vous renvoie à Santa Maria. Bon, le pacte germano-soviétique, ça n'est pas ça. C'est ce que j'explique dans le choix de la défaite. C'est-à-dire une décision que l'URSS ne peut pas, pas prendre. C'est impossible. Et qui est prévue depuis 1933 par les diplomates et les attachés militaires français et anglais.